Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors en ce lundi, comme tous les jours, il est là, à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy, avez-vous passé un bon week-end?
Eh bien écoutez, bonjour Mélanie,
vous avez, je m'inquiète un peu de vous.
Mais oui, vous êtes même gentille aujourd'hui,
oui,
comme un lundi.
J'espère que ça durera. Bonnes résolutions.
Oui, ça n'a pas duré toute la semaine à mon avis. Hein.
Mais bon. Très bien, allez,
on prend ce qu'on prend.
On verra bien. Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va parler de la beauté des seins, des nouvelles techniques de chirurgie esthétique qui permettent désormais d'embellir, de lifter sa poitrine, de réduire sa taille aussi, si on le souhaite, et le tout sans traces, sans cicatrices, parfois dans certaines indications, car c'est possible aujourd'hui. Et bien pour en parler, nous recevrons le docteur Éric Plot. Il est chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Ensuite, dans notre chronique Les Mots du Quotidien, on va s'intéresser à une maladie chronique. Savez-vous ce qu'est l'arthrose? Quelles sont les causes et les traitements de cette pathologie? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une question: que doit-on penser de ces parents qui embrassent leurs jeunes enfants sur la bouche?
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par cette question d'Axel. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous appelle parce qu'on est dans le mois sans tabac et je cherche à arrêter de fumer. Et donc je cherche des solutions pour m'aider à arrêter de fumer. Et donc je voulais savoir si pour vous le vapotage, c'était une bonne solution pour pouvoir arrêter de fumer. Merci.
Alors d'abord, bravo Axel, hein, Jimmy, on félicite toujours. Hein,
exactement.
Que, c'est important,
c'est
parce
une
que
victoire.
Chaque essai, c'est déjà une victoire.
Exactement.
Alors Axel, donc, pour vous répondre, on a transmis votre question au professeur Amin Benyamina. Il est chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif.
Le vapotage est devenu, et dès le départ d'ailleurs, une vraie stratégie de réduction des risques. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir la nicotine, qui est un produit identifié comme étant responsable de la dépendance au tabac avec un syndrome de manque. Et le fait de prendre de la nicotine à travers un dispositif qu'on appelle la cigarette électronique, le vapotage, limite les risques d'ingérer des produits nocifs comme les produits de combustion, les produits aromatiques, les produits de détérioration qui sont connus dans la cigarette ou bien dans le tabac en général. Mais d'ingérer la nicotine, dont on connaît d'ailleurs la concentration, afin de lutter contre le syndrome de manque. C'est une phase intermédiaire, une espèce de sas, pour les personnes qui ont décidé d'arrêter de consommer. On n'est plus dans la loi du tout ou rien, c'est-à-dire arrêter de fumer du jour au lendemain ou alors maintenir sa consommation de tabac. Donc à la manière de la nicotine en patch ou bien des gommes mâchées, le vapotage a toute sa place dans l'arsenal de la réduction des risques qui permettent aux personnes, un jour ou l'autre, de lâcher totalement la consommation de tabac.
C'était donc le professeur Benyamina au micro de Benjamin Lévesque. Alors on va passer à la deuxième question. Cette fois, elle est pour vous, Jimmy. Écoutez bien, c'est Camille qui nous l'a laissée sur son répondeur. Non, pas sur le sien, sur le nôtre de répondeur. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. L'autre jour, j'ai une collègue qui m'a dit qu'elle avait eu un herpès dans l'œil. Mais est-ce que c'est possible? Parce que c'est vraiment la première fois que j'entends ça. Merci beaucoup.
Jimmy, alors on connaît effectivement l'herpès labial ou même génital, on en a
vous
déjà
connaissez.
Parlé. Non, moi je ne connais pas personnellement, mais j'en ai déjà parlé dans cette émission. Allez, ça y est, vous commencez à être taquin. Donc est-ce que ça existe, l'herpès dans l'œil, et c'est quoi?
Exactement, on appelle ça l'herpès oculaire et c'est dû à une infection virale de type herpès. Alors on a plusieurs types de virus, l'herpès simplex de type 1 et de type 2. Le type 1, ça touche plutôt le visage, plutôt les enfants, et tout le monde ne va pas développer cette infection de l'œil qu'on appelle une kératite herpétique.
Voilà, ça y est, vous aviez bien révisé là aujourd'hui. Hein.
Non, je connais tout ça par cœur, croyez-moi. Qu'est-ce que vous croyez, Mme Gomez? Et donc, certains patients vont développer la kératite, et puis d'autres ne vont pas la développer. Ils vont simplement avoir un petit peu de température. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le virus de l'herpès, il reste endormi toute la vie au niveau des ganglions dans la moelle, et pour une raison qu'on ne connaît pas, il peut se réactiver. Et parfois, il peut donner cette kératite oculaire. C'est 60 000 infections par an.
Ah oui,
c'est une urgence.
Je ne pensais pas du tout autant. Ouais.
Car en l'absence de traitement, eh bien, vous perdez votre œil. Donc c'est une véritable urgence et pour laquelle il faut absolument un traitement.
Alors quels sont les signes à part perdre l'œil que vous avez déjà décrit? Comment on sait qu'on a cet herpès? Ça coule, ça pique,
alors,
ça fait
y
quoi?
Il y a plusieurs types d'herpès oculaire, plusieurs types de kératite, mais vous avez mal évidemment, vous avez un œil qui va larmoyer, donc vous allez avoir un écoulement, vous allez avoir une sensibilité à la lumière, vous allez avoir une baisse de l'acuité visuelle, vous allez donc voir moins bien.
Bon, on va consulter quand on a tous
les symptômes. Et donc à ce moment-là, on consulte aux urgences ophtalmo. On ne va pas voir son généraliste éventuellement si on peut parce qu'on n'a pas le choix, mais la référence, c'est les urgences ophtalmo.
Très très bien. Et est-ce que c'est très contagieux? Parce qu'on dit souvent que le bouton de fièvre, l'herpès, la bouche, là, c'est très contagieux. Il ne faut pas embrasser, surtout les bébés d'ailleurs, je crois. Est-ce que là, c'est pareil? Si on se frotte l'œil à quelqu'un d'autre, en faisant un câlin, est-ce qu'on peut le transmettre à quelqu'un?
Évidemment, c'est contagieux. La pire des contagions serait de contaminer l'autre œil, puisqu'il y a un risque de que ce soit bilatéral. Donc il faut évidemment bien vous laver les mains, en particulier si vous portez des lentilles. À ce moment-là, c'est contre-indiqué. Et faire attention, parce qu'effectivement, vous pouvez le disséminer à la fois pour vous, mais aussi sur les autres. Donc d'une façon générale, quand vous avez un peu de bouton d'herpès, ben vous ne le trifouillez pas. Et si vous devez vous gratter les yeux, il faut bien se laver les mains avant. L'hygiène est primordiale.
En ce moment, de toute façon, on se lave tous les mains. Donc, ce sera très bien pour, à tous les niveaux. Comment ça se traite très, très rapidement, Jimmy?
Alors, donc, surtout, je vous dis, c'est l'ophtalmo qui porte le diagnostic. Il va vous donner un antiviral qu'on appelle l'acyclovir sous forme de pommade. Il peut compléter ça par des comprimés.
C'est le même que finalement pour cette herpès-là.
Mais oui, c'est une pommade ophtalmique. Donc, c'est une pommade qui va dans les yeux. D'accord. Contrairement à la pommade que vous allez acheter à la pharmacie qui n'est valable que sur la peau. Il vous donne parfois des traitements. Et puis, dans les cas extrêmes, ça peut aboutir à une greffe de cornée, puisque cette infection peut laisser des séquelles. Donc, vous l'aurez compris, si jamais ça vous arrive, au moindre doute, direction les urgences ophtalmo.
C'est très sérieux, on a compris. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Camille, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Éric Plot, chirurgien plasticien, avec qui cet après-midi, nous allons tout vous dire sur la beauté des seins, les nouvelles techniques qui permettent d'embellir sa poitrine, de corriger certains complexes. On y vient très vite, donc n'hésitez pas et restez bien sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Éric Plot, bonjour.
Bonjour, bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Merci de m'avoir invité sur un sujet que j'affectionne tout particulièrement.
Eh bien parfait, on est ravis également de vous avoir sur le plateau. Alors vous êtes chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Et avec vous, on va faire le point donc sur les méthodes, les interventions que l'on peut pratiquer au niveau de la poitrine. Mais avant ça, on va peut-être faire un petit point de contexte, entre guillemets. Les seins, c'est la zone numéro un sur laquelle les femmes souhaitent intervenir en esthétique. Et c'est depuis toujours que c'est comme ça, parce que j'ai l'impression, moi ça fait quelques années que j'entends parler de ces sujets-là. Là, j'ai l'impression que ça fait longtemps que c'est cette zone-là la prioritaire.
Alors oui, c'est la zone prioritaire, mais quand on parle de chirurgie des seins, en fait, il y a plein de chirurgies différentes. Il y a la chirurgie d'augmentation mammaire avec les prothèses ou le lipofilling. Il y a la chirurgie de réduction mammaire pour les poitrines trop importantes, ce qu'on appelle les hypertrophies. Il y a le lifting des seins pour corriger les seins tombants. Il y a le traitement de toutes les malformations, qu'elles soient congénitales ou acquises. Il y a bien sûr la reconstruction mammaire. Donc c'est un domaine qui est très vaste et qui regroupe en fait des techniques très différentes.
Et du coup, est-ce qu'on a des chiffres pour savoir combien de femmes se font opérer chaque année?
Alors, moi, j'ai des chiffres sur certaines interventions. Il faut quand même les prendre avec un peu de recul parce qu'ils sont liés à un témoignage spontané des chirurgiens, à une enquête spontanée. En 2018, on pense qu'il y a eu en France à peu près 48 000 augmentations mammaires, qu'il y a eu à peu près 25 000 réductions mammaires et 20 000 lifting.
Mais
c'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense que ces chiffres sont encore en dessous de la vérité.
Pourquoi les femmes font, alors je ne vais pas dire une fixette, parce qu'il y a des raisons très médicales aussi, ce n'est pas que toujours de l'esthétique, il y a quand même l'esthétique, c'est très important. Pourquoi on fait une fixette sur cette zone-là du corps particulièrement, plus que les fesses ou autre chose?
D'abord, c'est un élément de féminité. Et ensuite, un sein, sa vie avec la patiente. C'est-à-dire que vous avez la période de la puberté, de la post-puberté, de l'adolescence, avec les modifications qui sont liées à ça, la modification de son schéma corporel à une période où on est fragile. Et puis, on dirait qu'il y a une période un petit peu à part qui est la période de la vie génitale, même si j'aime pas trop ce terme-là, où la femme va plutôt se consacrer à sa vie de moment, à ses grossesses, etc. Il y a la phase post-vie génitale où finalement on veut se réapproprier une féminité qu'on avait, qu'on a peut-être un peu perdue à cause des grossesses.
C'est dans cette phase-là, non, que souvent qu'il y a le plus de patientes, peut-être, je ne sais pas.
Il y a des patientes un peu à différentes phases. Il y en a beaucoup en post-pubertaire, au moment de l'adolescence, à la fin de l'adolescence, quand on s'est construit, quand on a vu son image corporelle se construire, parce que la jeune fille, elle est quand même, c'est déjà une période difficile, la puberté, il y a l'image de l'autre, et puis il y a des patientes qui ont vraiment une vraie souffrance morale.
Oui, ça, c'est que l'impact, vous voyez des patientes qui sont en détresse lorsque, justement, leur image corporelle n'est plus en phase avec ce qu'elles ont été ou ce qu'elles pensent être.
C'est une chirurgie. Moi, je dis toujours que la chirurgie esthétique, c'est aussi une chirurgie de l'âme, parce que moi, je vois arriver, par exemple, des adolescentes ou qui ont 17 ans, qui ont fini leur, enfin, qui vont rentrer dans la phase adulte, qui ont des énormes poitrines, des hypertrophies mammaires, qui sont complexées, qui arrivent dans votre bureau de consultation, elles ont les yeux baissés, elles ont des vêtements larges, c'est juste, dès qu'on veut les examiner, elles se mettent à pleurer, etc. Et vous les opérez et elles sont transformées. Vous les revoyez six mois après, c'est plus les mêmes. Ouais. On les a aidées. Et moi, comme tout le monde d'ailleurs, on a tous des messages de remerciement de patients qui nous disent « Mais docteur, vous nous avez changé la vie, vous n'imaginez même pas à quel point. » Ce que je dis moi, c'est on a tout ça dans nos cabinets.
Donc là, il y a le côté psychologique, mais parfois c'est même médical. Les celles qui ont des très grosses poitrines, comme les jeunes filles dont vous parliez, ça peut engendrer des problèmes au niveau du dos. Enfin, c'est pas seulement esthétique là,
bien
pour
sûr,
le coup.
Bien sûr, c'est une chirurgie qui est une chirurgie esthétique, mais aussi réparatrice. C'est-à-dire que non seulement on va améliorer l'aspect esthétique du sein, mais on va leur soulager les douleurs de dos.
Elles ont moins mal au dos quand on enlève de la masse.
Peut-être pas quand elles ont 17
seins,
ans, mais quand, avec le temps, bien sûr que ça crée un mal de dos. Et puis il y a les problèmes de transpiration, et puis il y a les problèmes dans son rapport à l'autre. Enfin, il y a un tas de problèmes qui sont liés à ça. Hein.
Et puis en plus, il peut y avoir des malformations esthétiques. On parle souvent, on pense au vieillissement des seins, lorsqu'on prend du poids, lorsqu'on en perd. Mais là, on peut vraiment avoir de base un problème à ce niveau-là ?
Bien sûr, il y a des jeunes filles qui naissent avec des seins très asymétriques, parfois un sein
vraiment
qui s'est développé.
Beaucoup plus gros que l'autre, ça existe.
Beaucoup plus
ça,
gros que l'autre, voire un sein qui ne s'est pas du tout développé, un autre sein qui s'est développé, qui naissent avec des malformations sur les seins.
C'est quoi le sein tubéreux ?
Le sein tubéreux, c'est par exemple un type de malformation qui est pas très fréquent, mais qui existe, où la glande mammaire ne va pas, pour résumer, se développer de façon harmonieuse dans tout le sein. Mais par exemple, va se développer que dans la partie supérieure du sein, ce qui fait qu'elles vont avoir un espèce de bombement à la partie supérieure du sein et une partie inférieure du sein qui est complètement plate.
Ah, oui,
ça va s'accompagner d'une protusion aréolaire. Enfin, il y a différents stades dans le sein tubéreux.
Ça donne une forme un peu particulière, un peu longue, un peu allongée.
Des seins qui sont très, très moche, hein, pour pas dire autre chose. Et moi, je comprends que quand on est 18 ans et qu'on se retrouve avec ça, qui est déjà une période difficile, on a envie de faire quelque chose.
Bien sûr,
et justement, les patientes que vous opérez de la poitrine, elles ont quel âge en moyenne ?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'âge, il y a différents âges. Il y a la période, moi d'abord, je n'opère personne avant l'âge de 18 ans, pour plein de raisons. D'abord parce que je pense qu'il faut un temps de réflexion. Je pense aussi qu'il faut se sortir de l'imprégnation hormonale et des modifications hormonales liées à la puberté, parce que c'est important les cicatrices, on y reviendra après. Et puis parce qu'il faut aussi, et c'est le dernier point, une stabilité de poids. Et souvent, la puberté, ça s'accompagne, ou la période post-pubertaire, de variations de poids importantes. On a souvent des jeunes femmes qui sont un peu fortes au moment de la puberté, puis qui vont perdre du poids en période post-pubertaire.
Vous faites même un contrat, vous, avec vos patients. Vous êtes un peu dur, je crois, sur le poids.
C'est pas que je suis un peu dur, c'est pas que je fais... Ouais, je fais un contrat. Alors, je suis pas dur, parce que vous allez voir, je fais un contrat de poids. C'est-à-dire que moi, quand je vois une jeune fille de 18 ans qui arrive et qui a une vraie surcharge pondérale de 10-15 kilos, qu'elle va sûrement perdre après, je lui dis il faut d'abord maigrir et vous faire opérer après.
Parce que les seins vont forcément fondre un petit peu aussi.
Parce qu'on peut être très bon, ben quand le sein peut, quand la personne perd du poids, elle va perdre du volume mammaire et un résultat qui est joli à un poids donné, si derrière vous perdez 10-15 kilos, ben le sein il va se réaffaisser
et il faudra réopérer
avec toutes les conséquences que ça engendre. Et il y a une autre période qui est une période très favorable, c'est la période de la ménopause. C'est-à-dire qu'au moment de la ménopause, le sein il se modifie beaucoup puisque sous l'effet des hormones, on a une fonte de la glande mammaire qui va être petit à petit remplacée par de la graisse avec des patientes qui se retrouvent avec des grosses poitrines au moment de la ménopause.
Docteur Plou, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, nous allons continuer cette émission consacrée à la beauté des seins ce lundi et on va s'attarder sur le lifting de la poitrine. Quand les seins tombent, ont un aspect un peu fripé, il est tout à fait possible d'intervenir, d'améliorer les choses. On va vous détailler comment tout ça se déroule en pratique. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est vous, docteur Éric Plou. Vous êtes chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. On fait un focus avec vous cet après-midi sur la beauté des seins et sur les interventions qui sont possibles pour les femmes qui en ont le désir, bien sûr. On va s'intéresser d'abord au lifting de la poitrine. Ça s'adresse à quel type de patiente, à des seins qui ont quel problème précisément? Parce que lifting, c'est vrai qu'on pense tout de suite visage, mais en fait, non, poitrine aussi, mais dans quelle, pour quelle indication vraiment ?
Remonter
un instant,
un sein.
Voilà, votre micro, petit souci, c'est bon.
Lifter un sein, ça veut dire remonter un sein. Ça veut donc dire que c'est un sein qui est tombant. Il est tombant parce que la patiente a perdu du poids, par exemple, c'est un des grands motifs, ou parce que l'adolescence s'est faite de façon un peu trop rapide et que la peau n'a pas supporté le poids du sein et le sein est devenu tombant. Donc il va falloir remonter le sein. Mais lifter un sein, ça pose en fait deux problèmes. Il faut d'une part remonter le sein et il faut d'autre part travailler le volume du sein. On peut avoir un sein qui est tombant mais qui garde un certain volume et là on va utiliser le volume existant, la glande existante pour reconiser le sein.
Vous remodelez en fait, faites de la sculpture presque.
Exactement,
hein, c'est ça,
on va remodeler le sein, redonner une forme, pour re-remplir le pôle supérieur du sein. Ça, c'est un premier type de lifting des seins. Et puis, il y a des patientes qui ont des seins tombants, mais des seins qui sont complètement vidés aussi. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont vides. C'est des étuis cutanés vides, tombants.
Comment ça a pu se vider en maigrissant, c'est ça?
L'amaigrissement, enfin, aujourd'hui, on voit des ptoses, parce que c'est en fait pour corriger un sein tombant, ce qu'on appelle une ptose majeure chez les patientes qui ont beaucoup maigri, qui ont eu des chirurgies bariatriques, etc., et qui se retrouvent avec.
Mais le sein se vide vraiment, parce que parfois on a l'impression que ça se vide au niveau des fesses quand on maigrit, mais ça se vide plus au niveau de la poitrine.
Le sein, c'est un mélange de glandes et de graisse. C'est pas uniquement un tissu glandulaire, c'est un tissu graisseux. Donc quand vous perdez du poids, vous perdez le composant graisseux du sein et ça tombe. Et donc, pour finir, dans ces seins tombants et qui n'ont pas de volume, il va falloir traiter le problème du volume qu'on va traiter en mettant une prothèse. Mais la prothèse à elle-même, elle ne va pas être suffisante pour remonter le sein. Elle va redonner le volume et il va falloir redraper le sein sur cette prothèse qu'on a mise en place.
Et justement, vous parlez de prothèse, mais est-ce que je crois qu'on peut aussi réinjecter sa propre graisse? Est-ce qu'il n'y a pas une défiance des femmes vis-à-vis des prothèses? Elles veulent tout autant les prothèses que la graisse?
Alors, c'est une très bonne question et c'est vraiment du quotidien, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patientes, elles arrivent en consultation et elles vous disent moi, il faut me remonter le sein, il faut me redonner du volume.
Mais je ne veux pas d'implant,
il faut utiliser ma propre graisse.
L'affaire PIP, ça a fait quand même pas mal de mal, malheureusement,
beaucoup de tort pour une technique qui est pourtant une technique vieille et éprouvée. Et ben, c'est ça tout le travail, c'est d'apprécier par l'examen clinique, de savoir si la quantité de graisse que la patiente présente est suffisante pour pouvoir redonner du volume au sein. Car le problème, c'est que, par exemple, une patiente qui a beaucoup maigri, souvent, on se retrouve avec des excédents cutanés majeurs.
Vous n'allez pas avoir tant de graisse.
Et puis, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que augmenter le volume d'un sein par un lipofilling ou une lipostructure de graisse, ça permet facilement d'augmenter un demi-bonnet.
Ah oui, quand même, c'est pas si mal.
Un demi, au maximum un bonnet, mais pas beaucoup plus. Or, quand on a des seins qui sont complètement vides, un demi-bonnet sur un sein qui est complètement vide...
Il faut remplir au moins deux ou trois bonnets
parfois mettre un peu plus de volume. Donc, c'est notre travail d'essayer de convaincre la patiente que la prothèse assure un volume.
On peut faire les deux, un mix prothèse et graisse. On a des augmentations mammaires composites
aujourd'hui où on met des prothèses un peu plus petites et on nappe la prothèse avec de la graisse pour donner un résultat plus naturel.
Et concrètement, comment ça se passe? Ça se fait sous anesthésie générale, forcément?
Ah oui, c'est des interventions qui se font sous anesthésie générale, qui se font en ambulatoire ou avec une nuit post-opératoire, selon l'habitude du chirurgien, la difficulté de l'intervention, le temps opératoire et les protocoles qui existent. Mais oui, bien sûr.
Ça dure combien de temps donc tout ce que vous avez décrit? Bon, imaginons, il y a une petite pause de prothèse quand même, un peu de lipofilling, de graisse injectée. Vous devez un peu remodeler ce sein. Combien de temps au bloc?
Ça dure facilement
3
heures.
Ça a l'air d'être long, tout ça, quand
même. Ça dure facilement 3 heures, 3 heures et demie, car une fois que vous avez fait tout ça, il faut réadapter l'étui cutané sur la nouvelle forme du sein que vous avez créé. Donc c'est un peu... D'abord, on modèle le sein, on lui donne une jolie forme.
Et après, on modèle
la peau. Parce que ce que je voudrais faire entendre ici, c'est que le soutien-gorge naturel du sein, c'est la peau. Ce qui tient un sein, c'est la peau. Et donc, c'est un vœu pieux, la chirurgie sans cicatrice. Mais c'est un vœu pieux, car si vous avez une peau qui est relâchée, elle ne va jamais se retendre et elle ne va jamais maintenir un sein tout seul. Donc, il y a un temps cutané qui est important.
Tout ce que vous avez décrit, justement, en termes de cicatrices, elles vont être où quand vous devez enlever de la peau, peut-être, j'imagine? Il faut bien refermer quelque part. Donc, ça se situe où?
La rançon cicatricielle, comme j'appelle ça, elle est fonction de l'importance, pour parler des liftings, pour l'instant, de l'importance de la ptose. Plus le sein est tombant, plus le sein est avachi, relâché, plus l'excédent cutané est important. Et donc, plus il faudra retirer de peau. Et donc, dans les très grandes ptoses, ou dans les ptoses importantes, on va utiliser une technique dite en T inversée, avec une cicatrice autour de l'aréole et une cicatrice verticale de la base de l'aréole.
C'est vraiment un T à l'envers.
Sous le sein et devant, au milieu. Voilà. Ouais. Dans les ptoses plus légères, on va faire une cicatrice verticale et autour de l'aréole. On va supprimer la cicatrice horizontale dans le sillon. Et dans les petites ptoses, mais ça reste des cas limités, on peut se limiter à une cicatrice de recentrage de l'aréole.
Mais c'est pas pour tous les cas. Ouais.
Les résultats, on les a tout de suite ou il faut attendre un petit peu quand même?
On ressort avec les seins bien redressés, bien liftés,
mais parfois un peu plus haut que ce qu'ils vont être avec le terme, car le sein, il va se rasseoir un petit peu.
Volontairement,
prendre sa
forme, vous les dressez très haut quand même. Ouais.
C'est-à-dire que oui, volontairement, et puis de toute manière, la pesanteur joue son rôle. Hein. Un sein, ça peut être.
Ça fait plus naturel quand ça retombe un petit peu.
Et donc ça retombe un petit peu. Et donc, moi, je dis toujours qu'on a le résultat en dehors de l'aspect cicatriciel du sein au bout de 2 mois.
D'accord.
C'est vraiment le temps qu'il faut pour que le sein ait pris sa forme définitive.
Combien ça coûte à peu près, on va dire une fourchette pour ce lifting du sein?
C'est d'abord le lifting du sein, quand il n'y a pas de réduction de volume, c'est jamais pris en charge par la sécurité sociale.
C'est quand même le dire,
Et même chez les patientes qui ont beaucoup maigri, qui ont eu des sleeves, qui ont des amaigrissements de 40 kilos, ça reste un acte que la sécurité sociale ne prend pas en charge. Le prix va varier selon beaucoup de critères, selon l'expérience du chirurgien, les régions, le prix des cliniques. Ça va de 5000 euros à plus de 10 000 euros.
D'accord. Docteur Plou, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien passionnant dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous, on revient très vite. On vous détaille quelques-unes des interventions esthétiques que l'on peut faire aujourd'hui au niveau des seins. Juste après, on va parler de réduction mammaire et d'une nouvelle méthode chirurgicale sans cicatrice. On vous explique tout dans un instant. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 pour notre émission, sans rendez-vous avec notre invité. Donc c'est vous, docteur, vous foutez de moi un petit peu.
Vous avez hésité, vous débarquez. Oui, on est sur Europe 1, on est effectivement de 15 à 16.
Et donc c'est le docteur Eric Plo qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Bah, allez-y Jimmy, continuez.
Bah, très bien. Alors, à présent, on va passer à une autre partie de votre chirurgie. C'est la réduction mammaire. Là, c'est pour les femmes, vous en avez un petit peu parlé, qui ont des seins trop volumineux. C'est si fréquent que ça? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu marginal.
Alors, non, c'est pas du tout marginal. Il y a deux grandes périodes de traitement de ce qu'on appelle une hypertrophie mammaire. Il y a la période donc, après la puberté, lorsqu'on a fini sa croissance et on a fini sa puberté. Nous, on parle d'hypertrophie mammaire de type juvénile. Donc, ce sont des jeunes femmes qui ont 18 ans et qui, au moment de la puberté, ont vu leurs glandes se développer de façon très importante. Trop importante par rapport à leur poids, c'est pas un problème de poids, c'est juste que la glande
sous l'effet des hormones. On peut être très mince et avoir des seins très gros.
On peut être très mince et avoir des seins très gros, avec en plus une peau qui n'a pas joué son rôle de soutien-gorge.
Ça a craqué en plus.
Ça a craqué, donc ce sont des seins très gros et des seins tombants. Donc dans une hypertrophie mammaire, on a tout le temps, ou dans 99% des cas, une tose associée parce que sous l'effet du poids, le sein tombe.
Et c'est souvent, vous dites, à la ménopause, je crois aussi. Pourquoi à ce moment-là se rendre compte que tout d'un coup, alors que ça fait, j'imagine, une vie entière qu'on se trimballe, entre guillemets, avec une très très grosse poitrine?
Et bien parce que la ménopause, c'est une autre période importante dans la vie d'une femme. C'est une période où les modifications hormonales sont importantes. C'est une période où, sous l'effet des hormones ou sous l'absence d'hormones, on a une involution du tissu glandulaire qui va être remplacée par du tissu graisseux. Mmh. Et beaucoup de femmes vous racontent qu'elles prennent du poids à la ménopause. Ben, quand elles prennent du poids, elles en prennent de partout.
Et du coup, comment ça se passe concrètement, l'intervention? Qu'est-ce que vous retirez dans le sein pour justement qu'il soit moins volumineux?
Eh ben, on va retirer donc de la glande mammaire ou de la glande mammaire et de la graisse ou de la graisse seule selon le contenu du sein. Et on va, avec le tissu restant, avec le tissu glandulaire ou graisseux restant, redonner une jolie forme au sein, remonter le sein, le regalber, le re-remplir au pôle supérieur, puis réadapter l'étui cutané sur cette nouvelle forme de sein.
Et là, au bloc, concrètement, vous ouvrez à quel endroit? C'est la même chose? C'est le T inversé? C'est les mêmes cicatrices?
Ou le T inversé, ou la cicatrice verticale et autour de l'aréole. Là encore, ça va dépendre surtout de deux choses. Ça va dépendre d'abord du degré de ptose, et ensuite, ça va dépendre de l'importance de l'hypertrophie. Mais je vous vois bien venir avec vos problèmes de cicatrices.
On n'en veut pas de cicatrices.
Je vous comprends, et moi non plus, j'en veux pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les chirurgiens, on est confrontés à un dilemme. On a le problème des cicatrices.
Quand on ouvre, il faut bien fermer.
Et c'est un vieux
pieu
de supprimer les cicatrices. Ouais. Mais on a aussi le problème de donner une jolie forme et un résultat stable dans le temps. Alors, est-ce qu'il faut mieux privilégier une jolie forme et un sein qui va se tenir dans le temps et qui soit stable? Ou est-ce qu'il faut mieux se battre à tout prix pour supprimer une cicatrice en sachant que c'est souvent... Ça va souvent entraîner une récidive de la ptose mammaire, une récidive du sein qui va tomber. Bien.
Je crois que les femmes concernées sont moins obsédées que nous par les cicatrices, hein, finalement.
Oui, parce que d'abord, c'est un art, la cicatrice. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire, une hypertrophie mammaire, ça me prend 3 heures, 3 heures et demie pour le faire. Mais pourquoi ça me prend 3 heures, 3 heures et demie? Parce que déjà, il faut à peu près une heure par sein pour le bâtir, pour lui donner une jolie forme. Mais après, il y a encore une heure de temps de suture. Et quand on soigne ses cicatrices, quand on fait plusieurs plans de suture, eh ben les cicatrices, elles sont quand même plus jolies que quand on ferme des cicatrices avec 3 agrafes et 2 points de suture.
On sent que vous les chouchoutez, vous, les cicatrices.
Il faut les chouchouter. Pour qu'elles soient jolies, ça ne suffit pas forcément. Mais c'est en tout cas un point très important.
Oui, parce qu'on en discutait un tout petit peu pendant la pub. Vous avez parlé de la cicatrice en T inversée, donc un rond autour de l'aréole, et puis une forme de T avec un trait qui va aller du bout du sein jusqu'en bas. On avait l'impression que ça va être très visible, et vous dites que non, pas tant que ça, le trait vertical n'est pas si visible.
Alors la cicatrice verticale, c'est dans les 3 cicatrices qui existent, à mon avis, celle qui évolue toujours le mieux. Sauf si on crée trop de tension dessus, si on fait une faute, on va dire, technique, mais sinon souvent c'est une cicatrice qui évolue très bien.
Ça blanchit au fur et à mesure du temps.
Très bien. La cicatrice horizontale, dans le sillon sous mammaire, d'abord elle a l'avantage d'être cachée, puisque le sein va toujours se rasseoir un petit peu et qu'elle est dans le sillon. C'est souvent un petit peu sur les extrémités de la cicatrice que ça peut être un petit peu plus rouge, un peu plus inflammatoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de limiter quand même la longueur horizontale.
Alors, c'est possible de faire une réduction mammaire ou pas, vous allez nous dire, sans cicatrice aujourd'hui. Dans certains cas, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aspirer, c'est ça, et là, il n'y aura pas du tout de cicatrice, mais ce n'est pas pour tout le monde.
Alors, ce sont dans
la
des cas très
sans
limités. Je peux vous dire qu'un certain nombre de chirurgiens, dont d'ailleurs je ne fais pas partie, très honnêtement, ils travaillent, essayent de faire des liposuctions des seins et de voir comment la peau se rétracte et se remodèle. À mon sens, ça ne peut marcher que si, d'abord, c'est un sein graisseux, parce que la glande mammaire, ça ne s'aspire pas, donc il faut que ça soit un sein graisseux. Et il faut que ça soit un sein graisseux chez quelqu'un qui a une peau qui est encore élastique.
Assez jeune, donc.
Donc, assez jeune. Et une peau, finalement, c'est ça serait un gros sein graisseux qui ne tombe pas beaucoup. Là, on peut se dire qu'en aspirant, eh ben, la peau, de par son élasticité propre...
Il y a un petit trou, mais ça ne fait même pas de cicatrice.
Non,
ça ne
fait pas de cicatrice, surtout qu'on le dissimule complètement. Et on peut se dire que la peau, par son élasticité propre, va se rétracter. Mais c'est quand même à la marge. La seule zone qu'on aspire volontiers dans les seins et qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle les prolongements axillaires, quand les patientes elles ont de la graisse sur les côtés.
Un petit bourrelet qui sort du soutien-gorge.
Ça, en revanche,
je sais pas ce que c'est. Hein, c'est parce que...
Ça marche très bien.
Il y a un petit côté là.
Oui, vous l'avez dit, avant le chirurgien, d'ailleurs, je veux pas dire. Je suppose que c'est un coût, évidemment, cette chirurgie de réduction. Est-ce que ça peut être pris en charge par la Sécurité sociale?
Alors, c'est pris en charge par la Sécurité sociale à partir du moment où on retire plus de 300 grammes par côté. Alors 300 grammes, ça peut vous
paraître...
beaucoup,
hein, ouais, ça me paraît énorme.
D'abord, ça dépend si c'est de la glande ou de la graisse. Parce que la glande, ça pèse plus lourd que la graisse. C'est pas tant que ça, mais c'est quand même un certain volume.
Mais ça, vous le savez une fois que vous l'avez opéré, simplement. Non, en préopératoire, vous pouvez estimer.
À l'œil, vous voyez quand même.
On le sait bien. Ouais. Ouais, on le sait bien. Une hypertrophie, on sait bien celle qui va être prise et celle qui va pas être prise. Après, très honnêtement, la grande majorité des chirurgiens, on a ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires par rapport aux tarifs de la Sécurité sociale.
Bien sûr. Et il y a quand même du laser, je crois, aujourd'hui, qui peut être aussi utilisé en complément. Ça aussi, c'est pour améliorer la cicatrice. Ça peut se faire même dès le bloc, hein, je crois, pendant l'intervention, c'est ça?
Voilà. Alors aujourd'hui, on travaille d'une part à essayer de minimiser les cicatrices, mais d'autre part aussi à améliorer l'aspect des cicatrices. Et aujourd'hui, il y a des techniques qui existent, et en particulier, il y a un laser français, donc c'est toujours bien quand c'est français, qui est de la société Urgo, qui est un laser qu'on appelle d'optimisation cicatricielle et qu'on va utiliser dès la fin de l'intervention, dès la fin de la suture, avant même le pansement, et on va passer un laser sur ces cicatrices pour diminuer en fait le phénomène inflammatoire induit par la cicatrisation. Et en diminuant le phénomène inflammatoire, on va améliorer l'aspect des cicatrices.
Et ça a un coût, ça aussi, je suppose, évidemment.
Alors oui, c'est un coût qui est en fait fonction de la longueur de la cicatrice, puisqu'il y a un certain nombre de produits consommables. Et surtout, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose de complètement aléatoire, puisqu'il y a une étude qui a été faite en service hospitalier, où ils ont traité un côté un sein avec le laser, et sur la même technique, d'un autre côté, un sein sans laser. Et du côté traité avec le laser, ils ont jugé, par des juges extérieurs, que la cicatrice était toujours 40% plus belle du côté traité.
Ah oui.
C'est quand même pas mal. Ça. Ouais. Merci beaucoup, docteur Plot, d'avoir été avec nous avoir accompagné cet après-midi pour faire le point donc, sur toutes ces interventions pour embellir la poitrine. Merci encore, et on a bien senti la passion, effectivement, de ce sujet.
Merci, bonne journée.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. On va s'intéresser à une maladie chronique. Savez-vous ce qu'est l'arthrose? Quelles sont les causes, les symptômes et les traitements de cette pathologie? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Allez, à tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors il est temps de passer à présent à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et pour cela, on va démarrer avec une question qui nous a été posée par Charlotte au 3921. Notre répondeur, on l'écoute.
Bonjour Mélanie et Jimmy, je voulais connaître un peu plus, savoir un peu plus sur l'arthrose. Qu'est-ce que c'est? Et à quel âge on peut y toucher? Et est-ce que c'est génétique ou pas? Merci de votre réponse et je vous souhaite une bonne journée et une bonne émission. Au revoir.
Bon, une question claire et précise. D'abord, Jimmy, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'arthrose physiologiquement? Quand on est atteint par cette pathologie, finalement, il se passe quoi?
Alors, c'est l'usage des articulations qui, normalement, sont formées de cartilage qui servent finalement à assurer un bon fonctionnement, une bonne lubrification des articulations. Et au fur et à mesure que le temps avance, eh bien, ce cartilage s'abîme, raison pour laquelle il va y avoir plus de contraintes mécaniques, plus de frottements, plus d'inflammation qui va aboutir à une souffrance. Et donc, vous allez avoir mal puisque l'articulation est douloureuse et souffrante.
D'accord. Et on peut avoir de l'arthrose, mais j'en suis sûre, même dans plusieurs localisations différentes. Il y a le genou, on peut avoir l'arthrose à quel endroit précisément?
De façon diffuse, toutes les articulations peuvent être touchées. Fréquemment, on a l'arthrose au niveau de la colonne vertébrale, le rachis cervical, le cou. On peut avoir sur le rachis plus bas, au niveau du dos, le rachis lombaire. Mais vous pouvez avoir la même chose au niveau des genoux, des chevilles, des mains,
oui, partout,
des poignets.
Il y a des articulations, en gros, ça peut
tout toucher.
Dégénérer.
Celles qui vont être le plus invalidantes, ça va être le genou et la hanche et le pied.
Parce qu'ils sont très sollicités, c'est ça?
Très sollicités lors de la marche. Et puis, vous avez d'autres articulations qui peuvent être gênées fonctionnellement, comme la main. Si vous avez une arthrose invalidante du pouce, vous allez avoir du mal à vous servir de cette main. Et donc, certaines arthroses peuvent vraiment être un poison pour la vie quotidienne des gens.
C'est quoi les symptômes ? Vous avez parlé là un petit peu de douleur. On a compris que ça faisait mal, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a d'autres signes ?
Alors, tout d'abord, l'arthrose ne peut, peut donner aucune douleur. Ah, il n'y a pas forcément de corrélation entre les images qu'on peut voir à la radiologie.
Vous allez voir quelqu'un qui en a beaucoup, 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 mais il n'a pas mal.
Mais qui va très bien.
Ouais,
et à contrario, on peut avoir une petite arthrose du genou, mais qui est très invalidante. Donc, tout d'abord, ce n'est pas parce qu'on vous trouve de l'arthrose sur une radio que vous avez un problème de santé. Ensuite, la douleur, c'est le signe principal. Elle est plutôt mécanique. Plus vous utilisez l'articulation, plus vous avez des douleurs et donc vous allez avoir plus mal en fin de journée, puisque toute la journée vous avez marché, vous êtes servi de votre main, par exemple si vous travaillez, si vous êtes menuisier. La nuit, ça réveille peu et le matin, vous allez plutôt bien. Et par moments, il y a des phases inflammatoires de la maladie.
Poussée, c'est comme
une
ça qu'on...
Poussée, exactement. Votre... En réaction au... à l'agression du cartilage, il va y avoir une sécrétion d'un liquide qu'on appelle le liquide synovial, de l'eau qui va se former.
Ça va gonfler. Donc.
Ça va gonfler, ça va créer de l'inflammation. Et là, au contraire, vous allez vous réveiller la nuit, avoir un dérouillage matinal et donc avoir une articulation qui va être chaude, douloureuse et qui est donc en poussée.
Rapidement, comment on fait le diagnostic ? J'imagine qu'il faut aller regarder tout ça à l'imagerie, non ?
La radiographie suffit
bon examen,
largement.
D'accord.
Vous avez mal au genou, vous faites des radios du genou. Vous avez mal au poignet, vous faites des radios du poignet.
D'accord.
Et parfois, on a recours à des examens plus complexes, comme une IRM notamment pour le dos, pour être sûr, par exemple, que vous n'avez pas une hernie en plus ou un scanner en fonction de la localisation si on décide d'intervenir chirurgicalement.
Charlotte demandait aussi dans sa question si, quelles étaient finalement les causes de l'arthrose, si c'était par exemple génétique.
Alors, il y a plusieurs causes. On ne connaît pas exactement l'origine de l'arthrose. On sait que c'est 8 à 15% de la population et que plus on vieillit, plus on a un risque d'abîmer son cartilage et d'avoir l'arthrose.
Facteur de risque,
mais il y a d'autres facteurs de risque comme l'hérédité. Si vous avez une maman qui est très arthrosique, vous avez un peu plus de risque. Vous avez aussi le surpoids. Si vous êtes obèse, vous allez augmenter les contraintes, notamment au niveau du genou, et donc plus d'arthrose. Mais il y a aussi les maladies métaboliques, et ça, on a un peu de mal à le comprendre, qui vont sécréter de l'inflammation qui va user prématurément les articulations. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs causes à cette maladie.
Jimmy, juste rapidement, parce qu'on a peu de temps, comment ça se traite l'arthrose ?
Alors, essentiellement, des antidouleurs quand on a mal. Parfois, on a recours à des anti-inflammatoires sous forme de cortisone ou du kétoprofène, enfin des médicaments plus forts. Il ne faut pas oublier que parfois, on peut utiliser, faire des infiltrations. Vous avez très mal au genou ou dans le dos.
De corticoïdes,
d'acide hyaluronique. Et attention, la prise en charge de la kinésithérapie est très importante. Parfois, il faut de la rééducation fonctionnelle puisque plus vous marchez, plus vous allez mettre en marche des mécanismes anti-inflammatoires. Et à l'inverse, si vous restez au repos, eh bien, votre articulation va s'enraidir et donc vous allez avoir plus mal. Et puis, on n'oublie pas de perdre du poids au-delà de la contrainte mécanique. Vous allez créer encore une fois moins de molécules inflammatoires qui vont abîmer votre articulation. Donc, c'est une prise en charge qui est globale.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et bien sûr la sexo. À la fin de cette émission, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Elle nous rejoint tout de suite en studio. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, vous allez répondre à la question d'Ombline que je vais vous lire tout de suite. Elle nous dit « J'ai remarqué qu'une de mes amies embrassait ses enfants qui sont petits sur la bouche. Je trouve cela malsain. Vous en pensez quoi ?» C'est pas la première fois qu'on nous pose ce type de question, Catherine. Est-ce que c'est très fréquent d'ailleurs en France, finalement, les parents qui embrassent leurs enfants, alors les petits hein, surtout, sur la bouche finalement.
En fait,
parfois,
mais ce ne sont pas toujours les parents qui embrassent les enfants sur la bouche et c'est là que se fait la confusion. En réalité, quand vous approchez votre bouche pour embrasser un enfant sur la joue, que vous soyez le parent ou non, naturellement, un enfant en bas âge tend sa bouche. Tout simplement parce que son organe de communication avec l'extérieur, c'est-à-dire l'observation de ce qu'il va pouvoir appréhender, toucher, le jouer, la petite bête qui est par terre et qui est écrasée, pour essayer d'observer ce que c'est, eh bien, comme il est dans une phase qui est la phase orale, où tout son regard et son attention et son lien à l'autre passe par la bouche, parce qu'il est au moment de la tétée, et que c'est sa zone érogène, mais pas au sens sexuel du terme.
Donc, il lui donne du plaisir, il se sent bien. Quoi,
oui,
c'est ça.
C'est pas pour la recherche de plaisir,
non.
C'est une zone de vie.
D'accord.
C'est une zone qui est éclairée en quelque sorte et qui lui permet d'être dans un lien. Donc dès lors que vous tendez la bouche, eh bien lui, il vient à la rencontre de la bouche par sa bouche, quand bien même vous vouliez l'embrasser sur la joue.
Bon, alors Catherine, est-ce qu'il faut fixer une limite d'âge ? Mon dernier a 1 an et demi, est-ce que j'ai le droit, sans être traité de horrible papa avec des pensées malsaines, de l'embrasser sur la bouche? Et à l'inverse, l'aîné de Mélanie, il a 11 ans.
On s'embrasse pas sur la bouche, c'est la petite qui a 2 ans.
Voilà, mais voilà, même 2 ans, 3 ans, où est-ce qu'on fixe la limite? Parce que
alors déjà, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, sans être traité d'eux, donc encore une fois, c'est le regard de la société qui sexualise tout. et à force de toujours tout sexualiser.
Oui, parce qu'après tout, il y a des pays où tout le monde s'embrasse sur la bouche et ça choque personne, en fait, hein, ce qui n'est pas le cas en France.
Mais voilà, bon. Ce qui n'est pas le cas. Donc, restons dans notre culture et donc observons ce que notre culture raconte et ce qu'elle, du coup, elle impose. C'est-à-dire que la question que j'ai à me poser, c'est par rapport au bien-être de mon enfant avant de savoir si c'est parce que la société dans laquelle je vis va le considérer comme quelque chose de bien ou de pas bien. Ceci étant, pour notre enfant, on a besoin aussi de s'inscrire dans une société que l'on respecte.
Alors, pour notre enfant, est-ce que c'est malsain ?
Alors, pour notre enfant, d'abord, il faut distinguer l'enfant quand il est dans sa phase orale, donc ce que je viens d'expliquer.
C'est jusqu'à quel âge, ça ?
Alors, disons qu'on va s'éloigner le maximum de la phase où il va devenir dans la phase génitale, où du coup, il rentre dans une hypersexualisation. Et là, on est dans 2 ans et demi, 3 ans. Jusque-là, il n'est pas du tout dans un rapport à la sexualité. C'est nous qui sexualisons les choses. Donc nous, on pourrait se dire que ça ne nous convient pas. Et à ce titre, nous refusons éventuellement la bouche contre la bouche. Parce qu'on n'est pas obligé, pour communiquer avec son enfant, de l'embrasser sur la bouche,
donc
bien évidemment.
Donc si l'enfant tend sa bouche, à 4 ans par exemple, on doit lui dire non, je ne veux
oui,
plus.
Oui, c'est pas je ne veux plus, c'est mais ça c'est un
vous n'avez pas
un
besoin
bisou.
De crier non plus, Jimmy, vous lui dites gentiment non.
Non, mais je ne cache pas qu'à 4 ans, si l'enfant veut faire un bisou sur la bouche, c'est pas non plus. C'est
mais il y a pas de drame, il y a simplement dire ça c'est des bisous d'amoureux, c'est-à-dire c'est d'accord. L'aider à passer à autre chose tout simplement. Mais il va pas vous en vouloir parce que l'enfant d'abord a une mémoire qui est extrêmement à court terme à ce moment-là. Donc quand on passe d'un stade à un autre, il acquiert ce nouveau stade. Donc tant que on est dans quelque chose du poupon, c'est une chose. Quand on est dans l'enfant qui va chercher la relation à son parent par le biais de, notamment dans une phase oedipienne, et c'est-à-dire d'abord du petit garçon vis-à-vis de maman ou de la petite fille vis-à-vis de papa, puis après, évidemment, il va vouloir en sortir par l'effet inverse, eh bien, c'est important pour lui de l'aider à sexualiser les choses d'une manière psychique et pas nécessairement dans une application physique. Pour l'aider, tout simplement, à passer ce cap qui n'est pas un cap répréhensible, vous n'êtes pas un père. Pervers. L'enfant n'est pas libidineux, enfin il est dans un développement libidinal, mais
dans
il
les
n'est
pays
pas
où
libidineux.
Ils s'embrassent tous sur la bouche, c'est pas des pervers non plus.
Voilà, c'est-à-dire à partir du moment où tout se fait comme ça, on n'est plus dans une. C'est dans la mesure où le baiser est un baiser spécifique des amoureux, faire entrer l'enfant dans le champ du baiser spécifique des amoureux, évidemment que passer le stade où il n'est plus un poupon, c'est lui donner un accès à une érotisation qui peut lui nuire, encore une fois, lui nuire dans son développement psycho-affectif. Ça ne veut pas lui faire de mal, bien évidemment.
Mais on est d'accord, tout ça doit rester de toute façon dans le cadre papa-maman. On ne s'embrasse pas sur la bouche en élargissant la famille. Hein. En général, c'est des choses qui se font entre parents et enfants sur des petits-enfants.
Exactement.
Vous avez dit jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi.
Bien sûr. Et c'est le même sujet que vous pouvez adormir avec votre enfant. Ceci étant, je vous donnerai le même conseil. À partir du moment où il rentre dans la phase oedipienne, il est important de l'aider à comprendre que ce n'est plus sa place. Pour autant, vous le ferez ponctuellement.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Est-ce que vous tenez, comme Stéphane, un journal intime ? Alors évidemment, on ne peut pas parler du journal intime de Stéphane, c'est trop sulfureux.
Non.
Mais aujourd'hui, nous parlons
bien
des diaristes.
Oui. Anne Frank, le célèbre journal d'Anne Frank, qui a raconté l'occupation allemande aux Pays-Bas et ensuite elle a été déportée. C'est une histoire terrible. Samuel Pepys, qui est un Anglais qui a vécu au XVIIe siècle et qui a tenu un journal qui fourmille d'anecdotes et d'histoires sur l'Angleterre de cette époque. Et vous, j'ai pas bien compris ce que vous voulez faire, Mathieu.
Saviez-vous, Stéphane, que Elisabeth II, la reine d'Angleterre, tient elle aussi un journal intime ? Et savez-vous
oui,
qui
elle
a
le tient secret ?
Qui a accès
personne,
à ce journal ?
Personne.
Eh bien, elle
personne.
Et une autre personne,
même son
Stéphane.
Mari.
Moi. Vous le verrez tout à l'heure, dans Historiquement Vôtre, Scoop Europe 1 en perspective.
Merci, messieurs. Jimmy, qui tient lui aussi son petit journal intime, va vous écouter. J'en suis certaine, en tout cas. Je vous souhaite une très belle émission. Et vous, qui nous écoutez, hein, si vous voulez continuer à passer une très bonne après-midi, restez sur Europe 1.